Une femme va parler maintenant des risques pour la santé de la fabrication des composants microélectroniques qui se fait principalement dans les pays du tiers-monde.
Il y a une femme des Philippines qui a parlé, qui est venue vraiment avec un document assez impressionnant, enfin, dans cette commission, sur le cas d'une jeune femme qui est morte d'un cancer de la peau. Et bon, alors là, je pense qu'on entre peut-être dans la phase de ce qu'on pourrait faire aussi, parce qu'elle demandait vraiment à ce qu'on écrive pour protester et demander des enquêtes, enfin, je veux dire, des recherches faites sur les conséquences que ça a sur la santé d'utiliser un certain nombre de produits chimiques. Elles appelaient ça la plasticanémia, hein, c'est-à-dire, en fait, le cancer de la peau. Et bon, elles essayaient de mobiliser un peu les femmes sur, justement... Enfin, c'était un peu... Enfin, j'étais dans cette commission, ouais. Bon, elle avait vraiment envie que, justement, si on voulait marquer notre solidarité avec les femmes du tiers-monde, on n'étudie pas simplement les conséquences que ça aura sur notre santé à nous, pays développés, mais les conséquences que ça a sur la santé des femmes dans ces pays-là. Et puis, il y avait un autre élément qui me semble intéressant et puis qui recoupe un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'était que ces femmes, elles ne se plaignent pas. Elles ne se plaignent pas parce que pour elles, travailler, c'est déjà vachement important. Pour pouvoir arriver à se libérer d'un certain type de contraintes qu'elles ont par ailleurs, d'une société extrêmement patriarcale, voire féodale. Je veux dire, donc, en fait, elles ne se plaignent pas et elles vont jusqu'au bout. Et bon, ça, je pense que c'est quelque chose qui risque d'être un élément qu'il va falloir faire entrer en ligne de compte aussi dans nos pays. Je veux dire, y compris par rapport à ce que tu disais sur l'aménagement des horaires entre le travail ménager et le travail salarié, et jusqu'où les femmes, elles pourront aller pour s'adapter à une situation qui, effectivement, actuellement, vu la qualification qu'elles ont, va les amener, et les postes déqualifiés qu'elles ont, va les amener au chômage. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on a à prendre en compte comme un signal d'alarme aussi pour nous. Jusqu'où on est d'accord d'aller pour pouvoir avoir une indépendance économique et quelles sont les modalités de lutte qu'on peut mettre en place pour justement contrer ce système qui va nous aliéner encore plus, quoi.
Für die Macht.
femme va maintenant vous parler des techniques qui accompagnent l'accouchement, un atelier qui faisait partie de la conférence sur les nouvelles technologies de juin 1983, un atelier malheureusement très peu fréquenté par les participantes malgré l'intérêt de ce thème pour les femmes. Cet atelier a été animé par une sage-femme qui vient du Danemark.
Bon, elle a parlé des techniques qui sont utilisées. Et il y a toutes les techniques périnatales, et il y a toutes les techniques pendant la grossesse, ultrasound, amniocentesis, et puis pendant l'accouchement, il y a tous ces moniteurs. Vous savez, il y a des moniteurs qu'on fixe sur le pot, et il y a les moniteurs qu'on fixe à l'intérieur. On coupe la poche d'eau, et on met les électrodes sur la tête de l'enfant, à l'intérieur. Et puis, il y a une machine à côté de vous. Moi, j'ai trouvé que c'était fascinant. Moi, j'étais bien contente avec. Mais moi, vous savez, je suis un peu une femme des ordinateurs. Les autres trouvent énormément désagréable. Intéressant des différents aspects. Mais, alors, et puis, on regarde comment on ne sent seulement pas les contractions, mais aussi on les voit. C'est super. Bon, en plus, non, mais sans blague, il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment terrorisées par ça, quoi, en effet. Et il y a le sentiment qu'on est plus une personne, on perd complètement de personnalité, on devient un produit. On fixe pour nous l'heure de l'accouchement. Ça, surtout en Amérique, sans doute vous avez déjà tous entendu toutes ces choses. Il y a vraiment, on accouche presque jamais que pendant la semaine. On accouche jamais avant 7 heures du matin, si possible pas avant 9 heures du matin. C'est tout fini après 6 heures le soir. Si possible, c'est packaged. Bon, il y a beaucoup plus de césariens, il y a beaucoup plus d'accouchements avec ventouses. Et là, elle nous a donné beaucoup de rapports avec des statistiques montrant d'abord qu'il y a beaucoup d'effets secondaires causés par toutes ces technologies qui peuvent montrer des effets vraiment désagréables avec le fœtus et en plus les effets psychologiques avec les mères. J'étais étonnée, vraiment, ils ont des statistiques pour montrer que la dépression que ce sont après l'accouchement, il y a beaucoup de liés, et c'est lié avec le care qu'on a reçu avant, oui, le montant du technologie qu'il y avait là-dedans. Et puis les risques, plus de technologie, plus de risques.
Et le mot là, c'est des dépressions postpartum, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les crises que peuvent faire les femmes après avoir accouché, qui est liée à une augmentation de ces technologies. C'est-à-dire que les femmes à qui on a appliqué ça, on a constaté qu'il y avait significativement plus de dépressions postpartum et plus d'accouchements par césarienne que chez les femmes avec qui on n'avait pas utilisé ces technologies. Puis elle disait aussi que ça troublait la relation mère-enfant. La première relation mère-enfant, elle était un peu déconnectée par ces machines et puis que ça perturbait, c'était donc l'origine de ces dépressions, c'est que ça perturbait le premier rapport. Alors après, la mère avait de la peine à investir son enfant.
Plus risque d'infection, les enfants qui sont troublés, qui ont beaucoup de problèmes pendant les trois premiers mois, qui mangent pas bien, qui dorment pas bien, on peut peut-être lier ça à ces systèmes. Une autre chose, pour moi, le plus important, c'était qu'elle a montré avec des statistiques qu'il n'y a pas tellement d'avantages. On n'a pas tellement basser les statistiques de comment ça s'appelle, de morte, de perte, de mortalité. Qu'est-ce qu'on a gagné? Les docteurs sont plus à l'aise, mais
je voudrais te dire que c'est certainement très intéressant de voir les oscillations sur le monitoring des contractions utérines, mais imagine-toi, je connais les salles d'accouchement, et si tu es en train d'accoucher et qu'en fait, le personnel soignant entre parfois dans la chambre, non pas pour regarder comment tu vas, mais pour jeter un coup d'œil sur le monitoring. Et c'est ce qui se passe de plus en plus, si bien que gentiment, les monitorings sont en train de sortir des salles. C'est ce qu'on voit aux soins intensifs, où tous les monitorings sont dans la chambre des infirmières, elles tricotent devant les télévisions.
C'est très, très significatif de la connaissance que tu as de l'ordinateur. C'est-à-dire que comme toi tu le connais et que tu sais comment il marche, je veux dire, tu ne te sens pas dépossédé de ton accouchement. Par contre, plus la distance est grande par rapport à la technique utilisée, et plus la relation à cet objet, elle est vraiment perturbante, tu vois. Et ça, moi, ça m'a vachement frappée quand t'as parlé. Je trouvais très bien que tu le dises. Parce que ça montre bien la distance qu'il peut y avoir. Et puis bon, moi, je pense que tous les troubles qui ont été enregistrés sont évidemment bien liés à la relation à l'enfant et à la relation que tu peux avoir. Enfin, t'es complètement dépossédée de ton accouchement, quoi. Il n'y a plus rien que tu fais. Tu vois, jusqu'à au fait qu'effectivement, pourquoi pas les monitorings dans les salles de surveillance, et puis en fait la femme elle peut continuer à gémir et à souffrir et à se plaindre là-bas, je veux dire, ça n'a aucune importance, l'important c'est que l'enfant n'ait pas de souffrance fétale, quoi, vous voyez.
Paternité suprême. sommes si petits, ma coupable, coupable, nous sommes le résultat d'une équation.
L'introduction de l'informatique, c'est aussi une manière de contrôler ce que chacun fait dans son travail. Et il y a des dispositifs de contrôle de plus en plus sophistiqués qui sont mis au point et vendus sur le marché de l'informatique.
Alors bon, moi je voulais quand même parler d'une chose parce que ça m'a frappée, c'est-à-dire qu'à l'État, on a introduit déjà aux finances, à l'hôtel des finances, c'est une carte, comme ça, chaque employé a ça. Ça contrôle le temps de travail et puis... En fait, ça contrôle pas seulement ça, parce qu'on peut voir à travers ça
qui sort, qui rentre, pour quelle raison, puis où il va, parce qu'il y a des boîtes qui mettent des systèmes d'entrée dans différents... Alors, si on va dans un département, il faut mettre sa carte. Et les départements, on n'a pas besoin d'aller. De toute façon, on n'entrera pas parce qu'on n'a pas la bonne carte, mais enfin, l'ordinateur peut marquer « Monsieur Untel est allé dans ce local, il n'avait rien à y voir ». On peut calculer les déplacements des gens. Alors, il y a une liste comme ça, ce que peut sortir l'ordinateur de tous les déplacements. Il y a une tactique qui est recommandée par les entreprises qui vendent ces choses-là pour pas qu'il y ait trop de résistance. Alors, dans un premier temps, on met le truc à l'entrée. Après, tout ça, on peut, dans un deuxième temps, relier tout ça à un terminal qui va pouvoir faire la somme, l'analyse, etc. Et puis, le troisième temps, c'est que le terminal est relié à un ordinateur central encore plus loin, quoi. Encore dire, c'était la publicité, parce que moi, je me dis, bon, c'est un peu parano des fois, mais si on lit la publicité, alors il y a plusieurs publicités des vendeurs d'appareils. Alors, je vais vous traduire, parce que c'est de l'allemand. Alors, il y avait une publicité, ça s'appelle « Ça ne peut pas vous être égal, qui vient, quand, qui et quand vient et va ». Une autre publicité, c'est « Quelle capacité d'enregistrement hein. ?» Chaque mouvement temporel de chacun de vos travailleurs va être... dessiné sur toute la période de calcul programmé. Donc, vous pouvez avoir après un bilan, tac, avec... alors, ça donne, effectivement, on a là, 19h01, 1981, la personne numéro 00 tel tel entre dans l'espace 1. Après, on a 8h02, entrée dans l'espace 1 de la personne... qui a l'Ausweis 3, après, enfin, on a un truc détaillé comme ça. Bon, c'est une des contrôles. Donc, bon, un autre contrôle, c'est justement des machines comme ça qui sont mises dans la production, c'est-à-dire que chaque fois que la personne arrête, elle doit indiquer pour quelle raison elle s'arrête. Alors, c'est soi-disant pour mieux faire la facture, mais enfin, ça donne justement aussi un... Il s'arrête, ça incite pas les gens à sortir trop souvent pour aller aux toilettes, entre autres.
Je choisis sur l'écran cubique.
Dans la discussion qui a suivi, on a parlé un peu de stratégies qu'on pouvait développer pour combattre ou en tout cas endiguer les effets négatifs des nouvelles technologies. Et notamment, on a reparlé d'une intervention qui avait été faite par une Américaine, Bettina Birch, à la conférence.
Bon, elle faisait un peu un tour d'horizon de ce que c'était que cette nouvelle technologie, où effectivement elle disait, on peut pas dire qu'elles sont, il faut arrêter de dire qu'elles sont bien ou elles sont mauvaises en soi, il faut voir qui les a mis au point, qui les utilise et à quelle fin. Et quand on se rend compte de ça, on se rend bien compte qu'elles ne pourront être utilisées que effectivement comme instrument de domination, puisque tout ce que le pouvoir met en place, c'est un renforcement du système de domination. Et dans ce sens-là, elle disait, la solution à trouver, c'est effectivement la chose qu'on n'ose jamais dire. Elle disait, il faut nommer l'innommable, et c'est le sabotage. Et par sabotage, ce n'est pas nécessairement le sabotage comme on l'entend...
La bombe.
Non. Traditionnellement, ça peut être mille formes de sabotage qui sont déjà utilisées. Ça, il faut se rendre compte que je pense que tous les gens qui travaillent dans ce secteur le savent. C'est un endroit où maintenant on met énormément de poids sur ce qu'on appelle la sécurité. Parce que c'est bien que là ça pêche, dans la mesure où il y a des informations, on stoppe plus d'informations, c'est-à-dire qu'aussi le système est un peu fragile, on peut y avoir accès, donc il faut les protéger, il faut renforcer la sécurité. On introduit partout des caméras qui vous filment, on a ces badges, etc. Il y a un renforcement très fort de la sécurité et les gens ils résistent et ils sabotent et alors on démagnétise les bandes et puis on casse un peu l'écran, on met un tournevis là où il faut pas, j'ai toute une série de tactiques qui étaient utilisées dans l'industrie pour saboter, pour arrêter la chaîne par exemple, ça c'est connu, je veux dire quand la chaîne de la cadence était trop rapide, tout à coup il y avait une panne qui permet aux gens de fumer une clope, de penser à autre chose, et maintenant ça se passe dans des travaux de bureau qui, à travers l'informatique, sont devenus des travaux taylorisés. J'avais trouvé deux exemples un peu de comment des femmes avaient résisté à ce qu'elles appelaient les mouchards. Mais comme je n'ai pas gribouillé en verre, je n'ai pas trouvé ça tout de suite. Bon, que justement, on dit qu'équipées de mouchards plus ou moins raffinés, les machines surveillent, identifient, dénoncent et traquent les mille Russes qui coulent la cadence. Hein. Alors, il y a des femmes qui ont essayé justement de... C'était au chèque postaux. Donc on peut enregistrer, les femmes devaient donc encoder les données, comme ça on pouvait enregistrer combien de chèques postaux elles font à l'heure, etc. Il y a des entreprises qui utilisent ça pour afficher les meilleures données ou les plus mauvaises, pour accentuer la compétition entre travailleurs. Alors là, elles s'étaient mis d'accord de changer le terminal toutes les heures. Alors on ne pouvait plus savoir qui avait travaillé sur le terminal.
Oui, c'est de bonnes stratégies.
Alors,
est-ce que ça veut dire quoi, changer de terminal?
Mais c'est-à-dire qu'elles sont dans une salle, par exemple. T'as une salle, t'as 20 écrans avec 20 claviers. Ouais. Alors, tu tapes tel clavier.
Okay, alors, chacune de clavier.
Voilà. Tout simplement. Hein.
C'est
le mouchoir. Alors, elles ont aussi décidé de typer 1000 titres de... Je pense que c'est 1000 chèques postaux par vacation au lieu de 1200. Hein. Elles ont réussi à faire ça pendant une année.
Mais c'est un type d'action justement qui est très difficile parce qu'en fait la machine vous incite à aller toujours plus vite. Hein, parce qu'elle envoie, je sais pas si c'est valable dans ce cas-là, mais par exemple au téléphone, dès que la téléphoniste a posé son appel, l'ordinateur lui envoie immédiatement le suivant. C'est-à-dire qu'elle a pas de pause. Finalement les gens prennent un rythme jusqu'à l'épuisement parce que la machine elle est toujours disponible hein, à moins de tomber en panne. Alors, un autre exemple, alors, dans une boîte d'assurance de la région de Rouen, quand on utilise l'ordinateur, parce que tout le monde ne peut pas avoir accès, il faut donner un code d'identification. Alors, elle tapait 2x0, ce qui ne bloquait pas le système, mais qui ne permettait pas d'identifier la personne qui travaillait sur l'ordinateur. Hein. Alors, ça ne bloquait pas le système, mais ça le rendait aveugle, impossible de savoir qui a fait quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle, donc ils ont supprimé cet aspect-là.
Les nouvelles technologies s'implantent donc dans les entreprises, dans les bureaux et même à domicile. Nous avons voulu savoir ce que pensaient les utilisatrices de ces nouvelles technologies et nous avons interrogé une employée qui utilise dans son travail des ordinateurs et des machines à traitement de texte.
Parce que moi, je te dis que j'ai travaillé sur des machines, je connais les machines à traitement de texte, et puis je connais aussi les machines à écran. Je te fais remarquer que c'est deux choses différentes, d'abord. Il y a le traitement de texte, quand tu tapes un texte, et puis que tu as l'écran, et tu peux corriger. Bon, ça, peut-être que c'est un avantage, mais c'est pas évident. C'est pas évident, et moi, je connais ça parce que je le fais toute la journée. Et deuxièmement, moi, j'ai tapé un catalogue, hein, où, alors, à ce moment-là, t'as même plus le texte, hein, sur la, parce qu'on te dit, tu appuies sur un bouton, tu as un masque qui arrive, ce qu'on appelle le masque. C'est une grille avec des lignes, et puis tu as une place pour mettre le mot que tu dois mettre. Alors tu mets le mot, ou bien des fois c'est une phrase. Des fois tu as la chance de taper une phrase. Hein. Alors tu tapes la phrase, et puis tu t'appuies. Et puis l'information elle disparaît dans la machine, et t'attends, parce qu'il y a d'autres... L'ordinateur, ça va sur un ordinateur central, et puis il y a d'autres gens, comme à l'université, qui sont en train de faire des calculs, alors ils passent avant, ils ont des priorités, comptabilité à priorité sur le... Alors toi, t'attends, pas, et puis après tu, tout d'un coup, tu rappuies, puis alors voilà, il y a le truc, alors on te demande la réponse, alors ce que tu dois mettre, tu en mets, et c'est sans arrêt comme ça. Et bien franchement, c'est vraiment très agaçant, et puis t'as même plus le plaisir encore de faire déplacer ton curseur pour aller corriger un mot, et puis tu vois, c'est vraiment du cinéma, vraiment du cinéma. Ça sert à rien. Bonjour, maintenant.
Les disques que vous avez écoutés durant cette émission étaient Laurie Anderson, Big Science, Carlos Patato Valdés et José Mongal, Rythme Latin, de Sappho, La caissière à la BNP, Edith Nylon, Être automatique, Coltrane, Olé, le groupe Big Bag, Posodon, le groupe Malaria, musicienne de Berlin, Marthe, Mama Béa, Balade pour un bébé robot, Edith Nylon, Le meilleur des amours dans le meilleur des mondes, Kate Jarrett, Questar, et pour terminer, le disque de McLaughlin et Paco de Lucilia.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Vous êtes à l'écoute de Radio Pleine Lune, la radio des femmes sur Radio Zone 101.4 MHz. Radio Pleine Lune émet tous les mercredis soirs dès 19h en direct. L'émission que vous allez entendre sur le thème des femmes et des nouvelles technologies est une retransmission partielle du programme du mercredi 8 février. Cette émission est retransmise en différé et en continu jusqu'à jeudi soir à 19h, heure à laquelle reprennent les programmes en direct de Radio Zone. Pendant les émissions en direct, tous les soirs dès 19h, vous pouvez téléphoner 20 01 93 023 depuis la Suisse.